Franprend.com.
Tribu Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu et bienvenue dans un monde qui se veut égalitaire. Et qui ne l'est pas. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Mais qu'en sait-on exactement? On sait qu'il y a des riches et des pauvres, une classe moyenne. Mais est-ce que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres augmentent, comme on le lit souvent? On a en effet souvent des études qui tentent de chiffrer ces écarts, de les analyser pour voir si nous vivons dans une société plus ou moins inégalitaire. On sait que certaines sociétés sont particulièrement inégalitaires. Des sociétés où l'écart entre riches et pauvres se matérialise en banlieue chic et sécurisée d'un côté et en immense favela ou bidonville de l'autre. On n'en est pas là en Suisse, bien heureusement, mais on va voir que nous vivons quand même dans un pays relativement inégalitaire. Nous allons nous pencher ce matin sur une étude qui se veut fouillée sur les inégalités des revenus des Suisses. 25 ans, un quart de siècle sous la loupe d'une équipe de l'Université de Neuchâtel et du Centre Suisse d'Expertise des Sciences Sociales, le FORCE, avec un maximum de données récoltées pour coller au plus près de la réalité. On va voir tout ça avec vous, Pascal Gazarette. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin dans Tribu, Pascal Gazarette. Alors, vous êtes sociologue, chercheuse à l'Université de Sociologie de l'Université de Neuchâtel et vous avez participé à cette étude dont on va parler ce matin. En fait, c'est une étude qui fait partie d'un plus vaste programme de recherche, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est un grand projet sur 2 ans et demi avec plusieurs chercheurs impliqués. Et il y a un volet principal qui est sur l'évolution de ces inégalités des revenus sur ces 25 ans, comme vous l'avez dit.
Alors, on voit souvent dans les journaux, effectivement, toutes sortes d'études, d'inégalités de salaire, hommes, femmes, etc. Enfin, il y a plein d'études qui se font, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et vous, vous dites au début de cette étude, du résumé de cette étude que j'ai pu lire, qu'il y a beaucoup d'études. Dans le fond, elles ne sont pas si fiables que ça parce qu'elles prennent une partie des chiffres seulement. Par contre, la vôtre, elle est beaucoup plus fiable. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi on peut se fier un peu plus à cette étude? Je disais, très fouillée et sur une échelle de temps assez large.
Ben, on peut imaginer que la société est un peu comme une scène de théâtre. Mmh. Si vous prenez une seule source de données, c'est comme si vous prenez un seul projecteur. Évidemment, avec un seul projecteur, vous ne voyez qu'une partie de la réalité. Alors, toutes les études qui utilisent traditionnellement une base de données laissent dans l'ombre une partie de cette réalité. Ce qu'on a voulu avec cette recherche, c'est amener justement une image plus complète en mettant plusieurs projecteurs pour essayer de voir comment ça se passe en fin de compte.
Un maximum de projecteurs sur les types de données qu'on peut avoir concernant les revenus. Alors, c'est quoi? C'est les salaires, on imagine. Comment est-ce qu'on fait un type d'étude? Comment est-ce qu'on va voir les salaires? Parce que on l'a entendu tout à l'heure, Silvio Delzan nous disait encore dans CQFD, en Suisse particulièrement, on n'aime pas du tout parler de son salaire. On n'aime pas, même entre collègues. Donc, comment est-ce qu'on va aller trouver les revenus des gens pour faire une étude?
On dispose en fait d'un certain nombre de données. Pour ce travail, en fait, on n'a pas collecté nous-mêmes des données, on a utilisé des données qui existent. Alors, c'est en partie les grandes enquêtes auprès de la population et des ménages que mène l'OFS. On en a utilisé
plusieurs. L'Office fédéral de la statistique,
fédéral de la statistique, exactement. Et puis, une autre source qu'on a, ce sont différents registres. Les données fiscales en sont un. Mmh. En tout cas, on peut les considérer un peu comme telles. On a aussi quelques autres sources possibles. Par exemple, le registre des cotisations à l'AVS, qui donne aussi une information, mais là, sur certains types de revenus et pas sur tous.
Mmh. Et puis, alors, justement, on a certains types de revenus, c'est-à-dire qu'il y a les salaires, mais il y a d'autres types de revenus. Il y a des gens qui gagnent de l'argent différemment. Ça peut être un gain d'une loterie extraordinaire. Ça peut être un revenu immobilier, des actions en bourse. On arrive à savoir, à capter ce type d'informations.
Alors, on essaye, on n'y arrive pas toujours bien. Mmh. Je dirais qu'effectivement, pour la couverture des salaires et des revenus du travail en général, là, ça marche assez bien. Là où c'est plus problématique, c'est sur les revenus de la fortune. Parce qu'évidemment, ceux-là sont souvent moins collectés, ils sont moins réguliers, donc c'est aussi plus difficile pour les gens, honnêtement, de les déclarer. Souvent, ils n'en ont pas forcément une idée très précise.
Ils peuvent être collectés à l'étranger aussi, ou dormir sur un compte en banque à l'étranger, par exemple.
Ouais. Donc, il y a des choses comme ça qui sont moins claires pour les gens. Si je prends, par exemple, les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique, la plupart se font par téléphone. Donc, on demande aux gens un certain nombre de questions sur combien gagnez-vous. Alors, évidemment, si on pose une seule question globale, il y a de fortes chances pour que les gens oublient une partie de leurs revenus, typiquement des revenus irréguliers ou qui viennent seulement de temps en temps ou qui constituent une petite exception. Par exemple, quelqu'un qui sous-loue sa place de parc va peut-être pas penser à déclarer les 1 000 francs de revenus annuels qu'il en tire. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a effectivement les gens qui vont volontairement minimiser certains de leurs revenus. Ça, dans les enquêtes, on l'a moins. Par contre, ce qu'on sait dans les enquêtes, c'est que les plus riches, comme les plus pauvres d'ailleurs, répondent beaucoup moins souvent à ces enquêtes. Et en plus, comme elles sont faites sur échantillons, bah évidemment, des groupes de la population plus rares, comme les très riches ou les très pauvres, bah sont globalement sous-représentés dans ces enquêtes. Donc on a une moins bonne qualité de données pour les deux extrémités de la distribution.
Donc forcément, on voit toute la difficulté de mener ce type d'études. On va venir d'ailleurs aux résultats, mais quand même, sur comment on peut imaginer, on peut aussi avoir un revenu, par exemple, un faible revenu, et puis selon notre mode de vie, je pense par exemple à des étudiants, ils sont souvent classés comme statistiquement pauvres, mais ils peuvent quand même, avec de tout petits moyens, un tout petit appartement, une colocation, quelques milliers de francs de réserve, même faire des tours du monde, enfin vivre relativement bien. Statistiquement, ils sont pauvres, mais ils le sont, on va dire, que provisoirement, et ils vivent plutôt bien ça. Est-ce que ça évidemment, on peut pas le calculer, ce genre de facteurs?
Ça se calcule en partie avec des enquêtes plus précises, mais effectivement, d'une manière générale, on considère que le revenu est un indicateur du niveau de vie, mais c'est effectivement un indicateur qui, dans certains cas, est moins bon que dans d'autres. C'est-à-dire que dans une majorité de cas, ça reste un bon indicateur. Après, il y a quelques exceptions. Et les étudiants ou les jeunes qui sont encore largement soutenus par les parents en sont une. Une autre, c'est le cas des ménages endettés qui peuvent avoir un très haut revenu, mais payer beaucoup de dettes et donc avoir un niveau de vie qui est beaucoup plus faible que ce qu'indique leur revenu. Ou au contraire, enfin, dans la même logique aussi, typiquement des parents divorcés qui doivent verser des pensions pour leurs enfants ou qui là aussi vont pas être pris en compte correctement quand on calcule leur revenu.
Ouais, on va voir d'ailleurs que les évolutions sociétales ont un impact sur les revenus tout à l'heure. Et puis, vous tenez compte des différences régionales. J'imagine on gagne quelqu'un qui gagne 80 000 francs, disons, brut par année. S'il habite au centre de Zurich ou à Delémont, eh ben, c'est pas pareil. Le prix des loyers, le prix de la vie est plus cher à Zurich. Il est plus pauvre à Zurich qu'à Delémont.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans l'étude sur les inégalités de revenus, on s'intéresse pas tellement à ce genre d'effet-là. On regarde vraiment cette inégalité au niveau du revenu. Et puis pas tellement à ce qu'elle reflète réellement ou pas du niveau de vie de la population. Évidemment, c'est bien ce qu'on aimerait voir, mais c'est déjà tellement compliqué qu'on essaie souvent de pas trop compliquer encore plus aller vers ça. Wow. Ce qu'on fait néanmoins, c'est qu'en général, ces études sur les revenus n'utilisent pas le revenu net ou le revenu brut, mais plutôt ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages.
Alors qu'est-ce que c'est que ce revenu disponible?
C'est simplement le revenu net moins les impôts et les autres dépenses obligatoires que
nous impose l'État. C'est ce qui nous reste en cash une fois qu'on a tout payé pour pouvoir vivre.
Ce que l'État nous oblige à payer, donc les impôts, les caisses maladie en fait, en plus des cotisations à VSAI.
Voilà, et ça tient pas compte effectivement des dettes, d'autres dettes. Donc c'est un peu le cash qu'on a pour vivre à la fin du mois. Alors précisément, vous disiez le vieillissement de la population ou la taille des ménages, ça change. Hein, ça a beaucoup évolué parce qu'on est parti de 1990 à 2015. Il y a eu des évolutions sociétales. Par exemple, les familles monoparentales ont augmenté, continuent d'augmenter, et ça modifie les revenus des ménages.
Oui, parce que en plus de calculer un revenu disponible, on utilise généralement un revenu équivalent, qui est un revenu qui est partagé en fonction de la structure du ménage. Typiquement, si dans un ménage familial typique, monsieur et madame travaillent, on va attribuer à chacun des membres du ménage, donc y compris les enfants, un revenu qui est une clé de répartition en fonction du total des revenus qui sont dans le ménage. Donc on additionne le revenu de monsieur et madame et on divise en gros par un facteur qui n'est pas tout à fait 4, parce que on tient compte des économies d'échelle quand on vit à plusieurs, mais ça fait peut-être un facteur de 2,8 pour une famille de ce type.
D'accord. Alors, premier constat peut-être de cette étude, on va y venir. En 25 ans, depuis 1990, c'est ce que vous dites, moi ça m'a surpris, je me suis dit, on va voir les inégalités exploser dans tous les sens possibles et imaginables. Non, elles sont restées plus ou moins identiques en 25 ans. Vous allez nous expliquer pourquoi, comment c'est possible?
Alors, il y a deux réponses. D'une part, la première, c'est qu'effectivement, toutes les analyses qu'on fait sur les données des enquêtes de type des grandes enquêtes de l'Office fédéral de la statistique, celles-ci montrent effectivement une stabilité des inégalités de revenus depuis les années 90. Il y a des variations qui sont principalement en parallèle en fait à la conjoncture économique, qui augmente, on voit une augmentation des inégalités pendant les périodes de haute conjoncture, et puis ça redescend au même niveau quand la conjoncture ralentit.
Quand ça va bien, ça veut dire que quand l'économie va bien, là il y a une inégalité plus grande, c'est-à-dire que les gens qui ont plus de moyens gagnent plus en bourse par exemple, ou ils ont des bonus pour ceux qui ont des métiers où il y a des bonus, donc là il y a une inégalité plus grande quand ça va bien.
Voilà. Alors, en particulier, tout ce qui est revenu de la fortune augmente très fortement en période de haute conjoncture et va baisser aussi très fortement en période de crise. Mmh. Alors, ces revenus de la fortune, ils ne sont pas répartis également dans la population. Évidemment, on les rencontre beaucoup plus dans les hauts revenus. C'est ce qui va tirer l'ensemble de la distribution des revenus vers quelque chose de plus inégalitaire parce que les très riches auront une augmentation des revenus de la fortune.
Par contre, effet inverse, alors, quand la conjoncture va moins bien, les gens très riches gagnent moins aussi,
voilà.
Et puis ça se tasse, tout se tasse.
Exactement. Et puis en bas de la distribution, donc chez les plus pauvres, on pourrait imaginer un effet un peu inverse, que eux profitent aussi un petit peu en bonne conjoncture, mais par contre perdent beaucoup en période de crise. Et là, en fait, on a clairement un effet stabilisateur du système de protection sociale, qui malgré toutes les limites et toutes les failles qu'on peut lui reprocher encore aujourd'hui, arrive néanmoins à limiter très fortement les problèmes de pauvreté importante qui pourraient apparaître en période de crise.
C'est-à-dire que là, vraiment, à un moment, on ne tombe pas plus bas, théoriquement. Voilà. Bien sûr, on sait qu'il y a des gens qui passent au travers de certaines mailles de ce filet social, mais on a une espèce de filet, on ne tombe pas plus bas. Donc, quelle que soit la conjoncture, en fin de compte, on ne va pas plus bas, on reste là, et donc l'inégalité ne s'accroît pas, c'est ça?
Voilà. Exactement. Et un autre élément qui explique aussi la stabilité dans le temps, c'est l'importance des revenus qu'on appelle de transfert, c'est-à-dire tout ce qu'est les rentes versées par l'État en particulier. Et là, évidemment, on connaît l'évolution des rentes AVS depuis le début des années 90. Elles ont très très peu évolué, si ce n'est les adaptations à l'inflation. Et ça fait donc un paquet une masse relativement importante dans la population de gens qui ont des revenus très stables, en fait, parce que ça dépend des rentes qu'ils reçoivent.
Alors moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça, comme vous me le dites, en 25 ans, j'avais l'impression, à nouveau en lisant parfois certains articles, qu'on allait vers un monde, en tout cas en Suisse, de plus en plus inégalitaire. On va le voir après, on fera une petite comparaison internationale. Mais disons, restons en Suisse, un monde de plus en plus inégalitaire. Et puis, en fin de compte, ça ne bouge pas trop. C'est plutôt une bonne nouvelle, Pascal Gazaret.
Alors, tout à fait. Parce qu'en soi, je crois qu'on est dans des sociétés qui n'ont pas très envie d'avoir des très hauts niveaux d'inégalité, en étant des démocraties qui prônent l'égalité en droit des citoyens. Les inégalités économiques posent quand même quelques problématiques. Peut-on vraiment être égaux en droit si on a des conditions de vie extrêmement différentes et très très inégalitaires? Mais à part ça, j'aimerais quand même nuancer ce premier constat. Là, j'ai parlé de ce qui ressort des enquêtes auprès des grandes enquêtes de population. Mais on sait, je l'ai dit avant, que ces enquêtes sous-estiment, captent mal ce qui se passe dans le haut et le bas de la distribution. Alors, on a vu que dans le bas, effectivement, la protection sociale protège relativement bien les plus pauvres. Mais on a d'autres sources de données dont j'ai parlé avant, typiquement les données fiscales, qui montrent malgré tout une augmentation des inégalités depuis 25 ans, mais essentiellement due à une augmentation sur le tout haut de la distribution parmi les plus riches.
Les riches deviennent plus riches.
Voilà.
Ça, en 25 ans, ils sont devenus plus riches.
Dès qu'on introduit des données qui permettent de capter correctement cette partie-là de la population, l'inégalité augmente clairement.
Alors de qui on parle, Pascal Gazaret, quand on parle des plus riches? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être certains riches qui faussent la donne. On sait qu'il y a certains très très riches, super riches, des multimillionnaires, pour pas dire des milliardaires, qui font partie des statistiques, j'imagine, et qui peuvent venir, qui peuvent être suisses ou venir de l'étranger avec leur fortune. On sait qu'on a des conditions fiscales plutôt avantageuses en Suisse. Ça fausse pas la donne parce qu'en fin de compte, c'est un tout petit pourcentage de la population, c'est super riche par exemple.
Oui, c'est un tout petit pourcentage. C'est difficile à estimer exactement, tout dépend comment est-ce qu'on les définit. Fini exactement, mais c'est autour de quelques pourcents, peut-être 1, 2 ou 3% de la population, pas beaucoup, en tout cas pas plus. Donc effectivement, ils sont très très minoritaires. On les voit pas non plus beaucoup parce que c'est pas des gens qu'on croise ou qu'on identifie facilement dans notre société. Mais effectivement, statistiquement, ils vont avoir un poids énorme sur les mesures d'inégalité.
Et donc, c'est eux qui montrent, enfin quelque part, leurs statistiques à eux font progresser les très riches, donnent cette impression que en 25 ans, les très riches ont progressé, mais l'immense majorité de la société, par contre, elle est restée relativement stable. On peut résumer ça comme ça ?
On peut le dire comme ça, oui.
On va voir tout à l'heure que la Suisse est quand même un pays relativement inégalitaire en comparaison internationale avec vous, Pascal Gazaret. Vous êtes ce matin dans Tribu pour parler d'inégalité des salaires. On va écouter quelques instants ce que pense Alain Souchon du phénomène. Alors lui, il le dit à sa manière, il le dit comme ça. Putain, ça penche.
Tribu, jusqu'à 11h30 sur la première.
Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès... Converse, Yamamoto, petit bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein. Calvin Klein, Gucci, Fendi, Ferrari, Boucheron, Chevignon, Louis Vuitton, comme des garçons, Lewis, Paul Smith, Princesse, Dame Dame, Saint Laurent. On voit le vide à travers les planches.
Alain Souchon, putain ça penche, c'est lui qui le dit, là il vient de nous faire exploser le quota des marques que l'on doit en général pas citer à l'antenne, merci Alain Souchon. Marque de luxe quand même, évidemment, c'était pas pour rien qu'on vous a passé cette chanson. Tout le monde ne peut pas s'offrir toutes ces marques, du moins régulièrement. On parle des inégalités de revenus en Suisse ce matin avec vous Pascal Gazaret, vous êtes sociologue et chercheuse à l'Institut de Sociologie de l'Université de Neuchâtel. Cette étude qui a le point sur l'évolution des inégalités de revenus en Suisse depuis 1990. On a vu avec vous tout à l'heure qu'en 25 ans, c'était assez stable pour les classes moyennes et les personnes les plus pauvres, que les plus riches se sont quand même enrichis un peu plus. Là, il y a une inégalité, mais enfin, ça touche une toute petite partie de la population. Qu'en est-il des rapports par rapport à l'international, des comparaisons internationales? Est-ce qu'on est un pays assez égalitaire, plutôt égalitaire, inégalitaire par rapport aux pays qui nous entourent?
Alors, pendant très longtemps, disons que globalement, on est quand même plutôt dans les pays plus inégalitaires que les moyennes, typiquement dans les classements que fait l'OCDE, par exemple. Ça ressort assez clairement. On est spécialement inégalitaire en matière de distribution de la fortune, qui là est très, très inégalitaire en Suisse. Mmh. Et ça se ressent aussi un peu sur les revenus, mais comme je disais avant, ça dépend un peu quelles données on utilise exactement. Pendant longtemps, effectivement, même si on prend simplement les revenus, on était vraiment dans le haut du peloton. Maintenant, on l'a dit, en Suisse, ça a quand même globalement resté relativement stable, alors que dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent, les inégalités se sont creusées depuis 25 ans. Ça, c'est
donc vraiment... cette impression qu'on a, parce que c'est quelque chose qui se dit, en tout cas, les inégalités s'accroissent, elle vient peut-être de cette impression qu'en tout cas à l'étranger, c'est le cas.
Oui, c'est le cas. Et c'est le cas par deux phénomènes dans beaucoup d'autres pays, un accroissement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres. Alors, l'appauvrissement des plus pauvres en Suisse, on l'a pas trop grâce à l'efficacité du système de protection sociale. Par contre, l'accroissement chez les plus riches, on l'a aussi, même s'il ressort pas forcément selon les enquêtes qu'on utilise.
Mais Pascal Gazaret, quand vous dites on était un pays dans le haut du tableau dans les inégalités, donc on était un pays spécialement inégalitaire. Moi, quand je pense à inégalité, je pense plutôt à des pays, prenons le Brésil, où vous avez des super riches, effectivement, des quartiers, comme je disais en introduction, qui sont avec des villas incroyables, qui sont sécurisés et tout. Et puis, des gens extrêmement pauvres, où là, je me dis, là, il y a un écart. Ça, c'est un pays inégalitaire, parce qu'on a des très riches et des très pauvres. J'ai moins cette impression en Suisse, pourquoi?
Oui, alors après, évidemment, être dans le peloton, plutôt dans le haut des moyennes, ça ne veut pas forcément dire qu'on est au top des inégalités. Il y a des pays plus inégalitaires que la Suisse, ça c'est clair. Mais le niveau d'inégalité en Suisse reste élevé. Ce que je dirais aussi, c'est que comme on a une évolution qui est plus stable, ou en tout cas avec une croissance moins élevée que dans d'autres pays, globalement, on s'est fait un peu rattraper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus dans la moyenne, si on prend les chiffres de l'OCDE, par exemple.
Et chez nous, l'évolution, elle est toute douce, elle est continue. Il n'y a pas des à-coups, il n'y a pas tout d'un coup un krach boursier particulièrement violent ou une montée particulièrement violente. Ça se fait tranquillement.
Oui, d'autant qu'effectivement, le dernier gros choc conjoncturel, ça a été la crise financière et économique de 2008. Et celle-ci a eu beaucoup moins d'impact en Suisse, mis à part sur effectivement ce petit groupe des très riches et le revenu de la fortune.
Pascal Gazaret, vous êtes sociologue. Comment, en tant que sociologue, vous comprenez le fait qu'il y a des inégalités, elles sont là, on peut les chiffrer, alors on peut faire une bataille de chiffres pendant des années, mais disons que malgré tout, on arrive à chiffrer ces inégalités, et le peuple ne se révolte pas, il n'y a pas de révolution particulière dans les votations, les gens ont plutôt tendance d'ailleurs à refuser que l'on taxe les plus riches, il y a des initiatives de la gauche pour taxer l'impôt sur les successions, par exemple, qui s'attaquent vraiment aux classes d'âge les plus riches, en général, elles sont refusées, les gens sont assez résignés, ils acceptent, ils trouvent que c'est normal, les inégalités?
Visiblement, il y a une certaine tolérance en Suisse. On sait qu'il y a il y a plusieurs éléments de réponse. C'est pas un aspect qu'on a creusé particulièrement. Donc, assez spontanément, je dirais que, d'une part, il y a un certain tabou en Suisse sur les questions financières. On partage pas forcément facilement l'information sur son revenu. Donc, oui, on sait qu'il y a des très riches en Suisse, mais on se rend pas forcément compte des écarts qu'il y a réellement. On a un peu plus médiatisé ces inégalités ces dernières années, surtout avec la thématique des rémunérations des très très riches qui font maintenant la une des journaux une fois par année. Donc ça, on l'a plus. Et puis je pense que l'autre élément, c'est qu'on n'a pas de pauvreté vraiment criante. Et un des problèmes des inégalités, c'est la pauvreté qui peut en découler. Par contre, effectivement, quand il n'y a pas trop de pauvreté et que les gens pauvres ne sont pas complètement à la rue et démunis, ben, on peut sans doute s'accommoder plus facilement du fait qu'il y a des très riches.
Donc on s'accommode de ça. Quelque part, on a tous envie aussi peut-être un jour de devenir riche. Donc on se dit, voilà, si un jour je le deviens, je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher ma fortune.
Tout à fait. Puis, dans les votations, ce qu'on nous rappelle aussi, c'est que ces très riches, ils contribuent aussi à la richesse générale du pays. C'est un élément aussi qui explique peut-être certaines positions face à eux.
Merci beaucoup, Pascal Gazaret, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette étude qui reprend cette étude du Force. Et puis, on peut aller regarder d'ailleurs cette étude et la télécharger sur socialchangeswitzerland.ch. Vous trouverez cette étude. Il y a un très bon résumé qui est tout à fait lisible. C'est très intéressant. Merci de nous en avoir parlé.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et puis, bonne suite. On vous recevra peut-être pour d'autres études, puisque vous l'avez dit, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce matin. Remercie Valère Veilla, qui était à la technique, Céline Zuffray, qui est notre assistante de production, et Nathalie Schoenberg, qui a choisi ce matin Alain Souchon. Et puis demain, nous poursuivons sur le thème des inégalités, mais nous nous pencherons cette fois-ci sur les inégalités contemporaines. Elles peuvent être multiples, ceci à l'échelle internationale. Je reçois le professeur Bertrand Badie. Demain, 11h sur la première. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, sur notre site internet www.rts.ch/tribu. Nous suivre sur notre page Facebook, donc Tribu, et puis nous écrire à tribu@rts.ch. Dans un instant, Lydie Coder, comme tous les jours, 11h30, Laurence Bizan vous attend avec toute son équipe. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.
Tribu, Laurent Caspary.